Bonjour et bienvenue sur L'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche.
Là, c'est parti. Et c'est parti, mais bon, il faudra couper cette partie-là, bien entendu. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On a dit, oui, tu commences par...
On a dit que c'est moi qui commence.
Oui, c'est toi qui commence, ok.
L'Octet Vert reprend du service et ça fait franchement plaisir. Je suis désolé de vous avoir laissé de côté bien malgré moi ces derniers mois. Pour tout vous dire, j'ai changé de travail et évidemment, ça a bousculé mon emploi du temps. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rejoint une équipe qui s'appelle Frugarilla et qui fait un podcast intitulé « Numériques essentiels 2030 » au pluriel, lequel aborde les sujets proches de ceux de l'Octet Vert mais avec un format différent. Avec mes deux collègues, Sarah et Alexis, nous y parlons de low-tech, de redirection écologique, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Quel rapport avec l'Octet Vert, me demandez-vous ? Justement, il y a un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, c'est la loi de Moore et l'impact que cette loi a eu sur l'industrie du numérique. Ça me travaille tellement que j'ai décidé d'en faire une série de podcasts susceptibles d'intéresser autant les auditeurs de Frugarilla que ceux de l'Octet Vert. Ça m'amène au présent épisode qui sera à la fois diffusé sur Frugarilla et sur l'Octet Vert. On y retrouve ce qui fait le sujet principal de l'Octet Vert. Comment le numérique et la technologie percutent les limites planétaires. Le tout dans la bonne humeur, vu que de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Allez hop, c'est parti pour cet épisode conjoint Octet Vert Frugarilla. Bonne écoute. Salut, c'est Tristan.
Salut, c'est Alexis.
Alors voilà, on commence un nouvel épisode, mais surtout un nouveau format, et on ne sait pas du tout où il va, hein, faut autant être extrêmement clair sur le sujet. J'avais envie de vous parler d'un truc, la loi de Moore, mais comme je n'avais pas envie de parler tout seul, j'ai demandé à mon camarade et complice Alexis de me poser des questions, et puis de participer aussi, parce que je pense qu'il est un petit peu comme moi, il ne sait pas juste s'arrêter, il a plein de trucs à dire sur des sujets sur lesquels je suis un petit peu faible. Donc bah, voilà, Alexis...
Ok, donc là... Là, je fais le canard, quoi, aujourd'hui. Je fais le canard, parfait.
Tu es un canard qui pose les questions, quand même.
Ok. Bon, je vais essayer d'être un canard à la hauteur. Ok. Bon, alors, effectivement, Tristan, tu nous parles de cette loi de Moore, et je t'entends souvent en parler. Mais alors, c'est quoi? C'est quoi cette loi de Moore?
Alors, la loi de Moore, elle a été édictée par un certain Gordon Moore, qui n'est pas complètement un inconnu, puisque c'est le fondateur de Intel, les microprocesseurs, là, okay. Ding, du, 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 ding, tu vois, là, c'est eux. Et je crois de mémoire que ce Gordon Moore, quand il est mort il y a juste un an, au mois de mars 2023, je crois qu'il était 96e fortune mondiale, tu vois, donc il n'était pas complètement inconnu.
Ah oui, okay.
Et ce monsieur, en 1965, il a écrit un papier scientifique où il a dit « Ah, mais la puissance des microprocesseurs double tous les 24 mois,
okay.
À peu près.
Okay.
Alors, il n'a pas dit la puissance des microprocesseurs, il a dit le nombre de transistors dans un microprocesseur ou un semi-conducteur, ça peut être aussi des mémoires, ça double tous les 24 mois. Et en fait, ben, plus tu mets des transistors, plus c'est puissant. Et donc, on a retenu que ça
fait la traduction sur la puissance, quoi. Ok. Ouais.
Voilà. Et puis, bah, ça s'est vérifié à peu de choses près. La loi de Moore fait que tous les 2 ans, tu as une nouvelle génération d'ordinateurs qui est 2 fois plus puissante que la précédente.
Ok. Ok. Donc ça, c'est cette loi de Moore dont tu n'arrêtes pas de parler, en particulier depuis la mort de Gordon. Paix à ton âme. Mais il y a une autre loi aussi dont tu n'arrêtes pas de parler là récemment et de plus en plus, peut-être liée à une autre mort d'ailleurs, c'est ton côté peut-être thanatonaute, je sais pas.
En tout cas, t'étais à 2 doigts de devenir nécrophile. Ne nous dis pas le contraire.
En tout cas, il y a une autre loi dont je t'entends parler depuis quelques temps, c'est la loi de, alors je sais pas comment ça se prononce, la loi de Wirth.
Ouais, moi je prononce ça Wirth. Ouais, ça vient d'un informaticien suisse, Niklaus Wirth. Enfin, moi, j'essaye de le prononcer, mais je ne sais pas parler suisse-allemand, hein, qui était un type assez extraordinaire, alors beaucoup moins riche, hein, puisque c'était un universitaire, il n'a pas fait fortune dans les microprocesseurs, lui, mais qui était un type assez extraordinaire, parce que Niklaus Wirth, qui est mort, alors lui, tout début janvier 2024, Niklaus Wirth, il a inventé le langage Pascal. Ça rappellera des souvenirs peut-être aux plus vieux, et d'autres langages, dont Modula 2, et en plus de ça, il était titulaire, enfin, il avait reçu le prix Turing, qui est un peu le prix Nobel de l'informatique. Donc, c'était pas un rigolo, c'était quelqu'un d'assez intéressant, et lui, il a édicté la loi de Wirth, enfin, ce qu'on a retenu comme ça, et il avait la décence de dire que c'était pas lui qui l'avait inventé. mais on a retenu ça sous son nom, qui dit, il part de la loi de Moore, oui, le matériel accélère d'un facteur 2 tous les 2 ans, mais il ajoute, le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère.
Ok, donc d'accord, ouais, j'avais pas conscience que c'était que il avait connaissance de la loi de Moore quand il édicte la loi de Wirth. Ok.
Ah bah ouais, il a dû le dire genre 20 ans plus tard quoi.
Ok. En fait.
Alors il exagère un petit peu parce que je pense pas que le logiciel ralentisse encore plus vite que le matériel n'accélère. Je devais être de mauvais poil ce jour-là, mais je pense que globalement sa loi à lui, elle est aussi vérifiée.
Ok.
Alors j'ai cherché des exemples là-dessus. Et en fait, il y en a plein. Par exemple, tu vois que la taille moyenne d'une page web en 20 ans, elle a été multipliée par 150.
Ah ouais.
Alors, est-ce que les pages web 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, sont 150 fois mieux? Ah non, elles sont bien 150 fois plus grosses. Hein. Tu vois, il y a des vidéos qui en fond d'écran, qui bougent,
en
machin,
3D,
etc.
Ouais.
Mais est-ce que c'est mieux? Ah, c'est peut-être 2-5 fois mieux, tu vois, mais pas 150. Ça, c'est sûr que c'est pas 150. Si tu regardes dans des choses un peu plus bureautiques, tu vas voir que si tu regardes la spécification de la configuration minimale de Windows 98 et Office 97, alors ça nous rajeunit pas, versus Windows 10 et puis je crois que ça doit être Office 2019 ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Tu vois qu'il faut des processeurs 60 fois plus puissants et 171 fois plus de mémoire.
Ah oui, 150, 171, ouais, c'est...
Ouais, tu vois, alors 171 fois plus de mémoire pour faire du Word,
ah.
Alors c'est mieux. C'est-à-dire que maintenant, tu as un correcteur orthographique,
oui.
C'est quand même un progrès.
Oui, ouais.
On peut pas dire le contraire. Ouais. Tu as un correcteur grammatical, c'est bien. Tu peux mettre des émojis. Non, mais faut pas cracher sur le...
Tu peux même insérer des fichiers Excel ou des extraits d'eux, tout ça, tu vois. Ouais, ouais.
Eh ben, écoute, je crois qu'à l'époque, tu pouvais déjà le faire.
Okay.
À la fin des années 90, ouais. Mais c'est ton document Word aujourd'hui, il est pas 171 fois mieux.
Okay.
Et je te parle pas d'une version avec un copilote qui est avec du chat GPT qui écrit le texte à ta
place.
Il faut des configurations hallucinantes.
Et en plus de serveurs qui vont bien derrière, la bande passante qui va bien derrière, etc.
Oui, avec une infra hallucinante. Et le dernier exemple que j'aime bien, c'est que l'Apple II de la fin des années 70, il y a des gens qui sont amusés à filmer avec une caméra haute vitesse le temps qu'il faut entre le moment où tu appuies sur une touche du clavier et le moment où ça s'affiche sur l'écran.
Mais alors rassure-moi, tes caméras à haute vitesse, elles tournent avec un bon processeur qui est suffisamment rapide pour bien capter les...
Voilà, d'accord, exactement.
Ah oui, quand même.
Okay. Et ces caméras à haute vitesse, eh ben, elles démontrent que avec un Lenovo X1 Carbon de 2020,
ouais.
Donc un bel ordinateur portable d'il y a quelques années, eh bien, c'est 5 fois plus lent que l'Apple 2 qui
ah
est...
Ouais.
Ouais,
ah ouais, donc on le voit vraiment...
Ouais, donc alors c'est mieux. C'est-à-dire que sur le Lenovo, tu as des polices de caractère en couleur, plusieurs types de polices de caractère, du gras, alors que sur l'Apple 2, tu savais pas faire ça. Tu crois que tu avais de la surbrillance, c'était à peu près tout quoi. Tu
okay.
vois, c'était donc, mais ça n'empêche que c'est quand même un peu dommage que un laptop hyper cher soit 5 fois plus lent qu'un Apple 2 qui a
ah bah oui, là pour le coup, on va dans le mauvais sens quoi concrètement,
ouais, c'est qui a 40 ans quoi.
OK.
Ouais.
Ok, donc merci pour ces exemples, Tristan. Donc, on y voit un peu plus clair, ça avance, mais parfois ça va même dans la mauvaise direction. Parfois on est un petit peu mieux, ce qu'on disait quoi sur l'Excel, le Word, peut-être on est un petit peu mieux, peut-être 2-3 fois mieux, mais pas 171 fois mieux. Et même sur dans certains exemples, ça va dans l'autre sens. À la limite, pourquoi c'est un problème? Enfin, en quoi c'est un problème selon toi, Tristan?
Eh ben, je sais pas si tu as entendu parler du changement climatique.
C'est quoi?
J'ai montré une
foutaise. Je sais pas. Non, mais vas-y, t'es peut-être sur un truc, raconte-moi.
Non, mais je crois que tout le monde en a entendu parler, sauf si vraiment on habite dans une grotte. Mais à ce moment-là, on n'a pas la fibre. Et c'est un problème, mais pas que ça, en fait. Les limites planétaires, en général.
Okay.
C'est-à-dire qu'on consomme énormément dans notre vie de tous les jours, et c'est pas juste du numérique, toute la vie, on consomme beaucoup de choses, on jette beaucoup de matériaux, on fait beaucoup de kilomètres en voiture, en avion, et tout ça impacte la toute fine croûte de la planète où l'humain peut vivre. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire quelque part, en gros, entre moins 100 mètres, si t'es vraiment dans un creux, dans la Death Valley, c'est pas très cool, la Death Valley d'ailleurs, ou jusqu'à dire 2-3 000 mètres, tu vois, c'est une toute petite croûte autour de la Terre.
La zone critique de Bruno Latour, dont tu parles.
Voilà, et ben, elle est pas bien épaisse par rapport à la taille de la planète, et ben, on est en train de polluer l'air, de polluer l'eau, de changer la température, de consommer des ressources métalliques, etc. On jette du plastique et tout. Et tout ça, en fait, c'est un problème parce que bah, la loi de Wirth, j'y reviens, elle a fait que au bout de 2 ans, ton ordinateur, il était quand même, il faisait pas le figure à côté de la nouvelle génération. Et même si tu achetais pas cette nouvelle génération, que t'attendais 4 ans pour garder ton ordinateur, il était vraiment beaucoup moins bien, puisqu'il était 4 fois moins bien que les nouveaux qui sortaient. Et donc, même s'il marchait encore, parce que le silicium, ça s'use pas, bah, t'as tendance à balancer ton ordinateur. Et la vérité, c'est qu'en fait, on s'est super mal recyclé tout ce qui est déchets électroniques et informatiques.
Mais en vrai, Tristan, on le jette pas son ordinateur. Enfin, en tout cas, je sais pas, auditeur, auditrice, si vous jetez votre ordinateur, mais on le donne, on le refourgue à notre petit cousin qui en a moins besoin. Enfin, comment tu vois?
Oui, mais à un moment, le petit cousin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il le met aux encombrants, quoi. Enfin,
ok. Donc, tu veux dire qu'il y a une chaîne, quoi. On le donne, puis on le donne, et au bout d'un moment, ok.
Exactement. Okay. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ben, par exemple, ça finit dans une décharge en Afrique parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire et ça pollue terriblement. Ils brûlent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de récupérer les métaux qui sont enfermés dans du plastique.
Ouais, mais du coup, c'est pas mieux et pour leur santé et pour la qualité de l'air.
C'est catastrophique. Alors ça, on le voit pas trop. Mm-hmm. Mais alors, il y a des photos de décharge au Ghana, au bord de la mer. Je vais écorcher le nom, je vais pas le dire. Si genre Agagopchi ou quelque chose comme ça.
Ah, donc, j'essaye pas. Ouais.
Non, ouais, bah t'as raison. Moi, il y aura que moi qui aura raté. C'est horrible, mais surtout que c'est de l'obsolescence programmée, puisque bah en fait, au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, ton ordinateur, bah tu le donnes à quelqu'un qui puis à la fin, de toute façon, il peut plus s'en servir. Et on sait pas.
Et tout ça, la faute à cette combinaison de la loi de Moore et la loi de Wirth, cas avec une façon de programmer, une façon de coder, une façon de numériser qui a presque internalisé ces idées des lois de Moore et de lois de Wirth, puisque elles sont pas inéluctables, ces lois. Enfin, je veux dire, elles sont pas...
Non, pas du tout. Tu as raison de poser cette question. Elles sont pas inéluctables. Mais en fait, il y a un mécanisme finalement assez simple qui fait qu'on travaille comme ça. Alors déjà, il faut dire que la loi de Moore, c'est une aubaine pour les fabricants de semi-conducteurs.
Oui,
Intel est devenu si riche, et donc Gordon aussi, ou AMD, son concurrent, etc., ou Nvidia, c'est parce que fabriquer des puces en silicium, ça coûte cher, mais ça rend très riche. Et donc on arrive à fourguer les nouvelles générations, parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes que les précédentes. Donc ils ont intérêt économiquement à faire ainsi. Au niveau du logiciel, en fait, c'est simple. Quand un développeur, il écrit son logiciel, il l'écrit d'une certaine façon, et il y a sûrement une meilleure façon de l'écrire, une façon de l'optimiser. Mais en fait, le type, enfin l'informaticien, c'est une ressource qui est rare. Il a dû faire des études. Il coûte cher, en fait, concrètement. Donc, quand il a écrit la première version du logiciel, on pourrait lui dire bon, tu vas vérifier que tu peux pas refaire la même chose, mais en plus vite. C'est ce qu'on appelle optimiser.
Ouais.
Tu pourrais optimiser, mais en fait, ça sert à rien d'optimiser parce que dans 2 ans, tu arrives à le rendre plus rapide, bah dans 2 ans, tu as une machine tellement plus rapide et dans 4 ans encore plus rapide qui fait que tout le temps que tu auras mis à optimiser, finalement, peu utile, enfin, c'est dilué dans les progrès qui sont faits par le matériel.
Ok, donc là, tu nous dis qu'avec ces lois de Wirth, loi de Moore...
Je t'explique en gros pourquoi la loi de Wirth, elle existe.
Ouais.
C'est que on pourrait optimiser le logiciel, mais on le fait pas.
Ouais.
Et par contre, le temps d'ingénieur, de développeur, on l'utilise pour rajouter des fonctionnalités. Faire des nouveaux trucs avec ce logiciel, parce que ça rend le logiciel plus désirable. Et donc, on va réussir à vendre cette nouvelle version au client. Et c'est pas grave si, du coup, le logiciel, il est plus gros. C'est pas grave, parce que de toute façon, dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération qui va éponger la perte de performance. Ouais, c'est des plus gros, qui prend plus de mémoire, qui a besoin d'un processeur plus gros, on s'en fiche, ça n'importe pas.
Ok, et toi, ce que tu proposes, en fait, c'est de prendre ce temps d'optimisation, quoi, de prendre ce temps et de pas tout de suite aller sauter et ajouter, sauter la nouvelle version et ajouter des nouvelles fonctionnalités, c'est ça que...
Oui, j'aimerais bien que ça arrive, mais la réalité économique fait que ça n'arrive pas beaucoup.
Okay.
Sauf que maintenant, on commence à se rendre compte que ça fait 50 ans, hein, parce que concrètement, le premier microprocesseur commercial de Intel, c'est le Intel 4004 qui est sorti en 1971, donc il y a 53 ans. Et ça fait 53 ans que la loi de Moore existe et que la loi de Wirth existe en retour.
Ouais.
Voilà, les deux se vérifient et donc en fait on pousse à la décharge du matériel qui fonctionne encore mais qui n'est plus utile parce que pas assez puissant. Et donc on fait du gâchis de puissance de calcul depuis 50 ans. Et toute l'industrie du numérique s'est structurée autour de cette puissance de calcul gâchée qui fait les affaires des fabricants de matériel et des éditeurs de logiciels.
Ouais, on retrouve là en fait les exemples que tu nous citais tout à l'heure, quoi, d'avoir fait 171 fois plus pour Excel.
De mémoire pour faire tourner Office, voilà, c'est ça.
Okay.
Alors que globalement, Excel, Word, PowerPoint, ça fait en gros la même chose.
Ouais, peut-être deux fois mieux, peut-être trois fois mieux, mais pas 171
mais
comme
pas
tu nous disais tout à l'heure.
Okay. Exactement.
Okay. Donc là, ouais, tu proposes, en tout cas, t'aimerais.
J'aimerais qu'elle s'arrête, la loi de Moore. En fait,
qu'elle s'arrête, okay. Bye bye.
Ouais. Bah écoute, ils sont morts tous les deux, hein, donc voilà, si on pouvait. Bon.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'arrête? Puisque, en fait, on va pas s'arrêter toute seule de façon magique, ni parce que Tristan Nitto, aussi légende sois-tu, le souhaite, le veut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on se met en ordre de bataille pour la faire mentir, cette loi?
Eh ben déjà, on pourrait regarder ce qui se fait en optimisation. C'est-à-dire, si on se relevait nos manches et qu'on se mettait à optimiser le logiciel, c'est assez incroyable et j'ai 3 exemples en tête.
Ouais. Le
premier, c'est une vieille connaissance sur Mastodon et que je connaissais d'avant, c'est Pierre Bessac. Pierre, il est cofondateur de Gandhi.net. Alors ça va faire frémir aussi les vieux. Et il se trouve que Pierre, il développe des logiciels et un jour, il a développé un truc en Python, un script qui calculait la position des trains sur une carte OpenStreetMap. Ce script, il tournait en 6 heures. Et il trouvait que c'était long quand même, que ça ralentissait sa machine 6 heures d'affilée. Donc, il s'est dit que ça serait bien que ça tourne plus vite. Et il a commencé à regarder, il a utilisé un logiciel qui s'appelle un profiler, qui lui indique dans quelle partie de son code, en fait, est appelé souvent et dans lequel
pour pouvoir l'optimiser, quoi,
temps est passé, quoi.
Ouais, ouais.
En disant, voilà, c'est là que ton processeur, il se traîne, quoi. Il passe son temps à faire ce truc-là. Il s'est rendu compte qu'en fait, il recherchait souvent les mêmes informations, que le mieux, c'était de les stocker dans une mémoire cache. Et donc, il met en place une mémoire cache pour son truc. Et en fait, au lieu de mettre 6 heures, ça met plus que 6 minutes.
Ah oui.
Et donc, il a fait 60 fois plus rapide.
Ah ouais, ok. Ouais.
En quelques minutes.
Okay.
Son script, il me disait qu'il a mis entre 100 et 150 heures pour l'écrire, au départ, la première version.
Ouais.
Et qu'il a mis 30 minutes à l'optimiser. Et que maintenant, c'est 60 fois plus vite.
Ah ouais, en 30 minutes de temps de travail.
En 30 minutes de travail, donc il a fait 150 heures plus 30 minutes et il a divisé par 60 le temps d'exécution.
C'est gigantesque, quoi. C'est gigantesque.
Ok. Ouais. Et là, tu dis, ah ben, en fait, en gros, il a gaspillé 59 fois trop de ressources, quoi, pendant tout le temps où il a pas optimisé, puis il a optimisé et bim, il fait 60 fois plus vite. Alors, j'ai un autre exemple. Ça, c'est un de mes collègues, un de nos collègues, puisqu'on est tous les deux chez Octo, qui s'appelle Aurélien, qui travaille dans le machine learning.
Okay.
Et Aurélien, il entraînait un modèle de données.
Ouais.
Ça prenait une quinzaine d'heures tous les jours.
Okay.
C'était
pour
une start-up, pour reconnaître des photos, etc.
Okay.
Et 15 heures avec des machines qui sont coûteuses, évidemment. Et il travaille dessus, il optimise, il réduit la taille des variables, etc. Et maintenant, son logiciel, il tourne 5400 fois plus vite.
Ah, en combien de temps, du coup?
C'est quelques minutes maintenant. C'est quelques, non, je me souviens plus, mais quelques minutes.
Mais et rassure-moi, il n'y a pas un truc qu'on nous dit pas entre les lignes, là, les astérix qu'il faut lire. Enfin, derrière, il n'a pas rajouté 15 000 serveurs, c'est à ISO.
Configuration identique, ouais. Donc, 5400 fois plus rapide, donc plus économe pour faire. Attends, j'en ai un troisième.
Ah oui, d'accord, tu vas crescendo, quoi. 5400. Bon, alors, je sais pas, auditeur, auditrice, qu'est-ce que vous pensez, là, le prochain, combien de fois plus performant va être le prochain exemple de Tristan, c'est à toi.
Celui-là, alors là, c'est Matt Parker et on mettra l'info dans les liens.
Parker, mais oui, tu m'as partagé la vidéo, je m'en rappelle. Alors là, ça va vous bluffer.
Elle est assez tordante. Alors, elle est in English, mais elle est vraiment très bien. Et Matt Parker, c'est un drôle de personnage parce que il est à la fois mathématicien et stand-upper sur YouTube. C'est un drôle de mélange et il a une bonne tête en plus. Lui, il s'était dit qu'il voulait résoudre un problème logique. Le problème, en quelques mots, ça consiste à prendre un dictionnaire anglais, puisqu'il est anglais, Matt, prendre les 26 lettres de l'alphabet et essayer d'écrire une phrase de 5 mots et chacun de ces 5 mots fait 5 lettres.
Okay.
Et il faut que toutes les lettres soient différentes les unes des autres.
D'accord.
Donc, tu choisis un premier mot de 5 lettres. Il faut qu'il n'y ait pas de répétition de lettres dans le premier mot. Puis, un deuxième mot de 5 lettres, il ne faut pas qu'il y ait de répétition avec le premier mot, ni au sein du deuxième mot. Puis après, un troisième mot. Et donc, forcément, il est plus difficile à trouver parce que tu as déjà bouffé 10 lettres de ton alphabet. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives au cinquième mot. Et là, tu as utilisé 25 lettres. Et il y en a une qui n'est pas utilisée sur les 26.
Non, mais là, je t'arrête tout de suite. Juste, il explique à un moment pourquoi il a voulu faire ça, Matt Parker.
Ouais, c'est un problème de logique. Là.
Ah d'accord. Non,
ça sert à rien. C'est pour la beauté du geste.
D'accord,
c'est...
ça va. Non, vas-y, continue. Pardon.
C'est des maths. D'accord. On peut pas comprendre. Et là, il fait un script en Python. Il lance le machin et ça tourne pendant 32 jours. Bon, alors, je vous entends déjà dire, le Python, c'est pas le plus performant des langages. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, ça met 32 jours à tourner. Et il commence à en parler dans un podcast. Et là, il y a quelqu'un qui fait « Moi, j'aimerais bien relever le défi et résoudre le même problème logique, mais je suis sûr que je suis un peu moins bête que Matt Parker, ou en tout cas plus malin, et donc je vais écrire le logiciel d'une manière différente, et ça va tourner plus vite. » Alors là, l'autre, Matt Parker, n'est pas encore au courant du truc, hein, tu vois, mais il laisse dans les commentaires du podcast « Ça y est, j'ai une version maintenant !» Et elle tourne non pas en 32 jours, mais en 15 minutes.
Ouch. Ouh, l'ego,
ça va faire mal. Et là, là, ça commence à se déchaîner. Il y en a un troisième qui fait « Attendez, pull my beer », comme on dit là-bas, tu sais. « Je vais faire encore mieux que 15 minutes », et ainsi de suite. Puis il y en a un quatrième.
On va faire
quatrième.
Une traduction pour les Tristan fans, c'est « Hold my brompton », tu vois. Tu dis, attendez, voilà. Hold my brompton, attendez.
Tiens-moi mon vélo, je m'en occupe, hein, voilà. Bon, et ainsi de suite. Et puis après, ils se sont mis à travailler ensemble, en fait, en disant « Ah ouais, mais tu pourrais optimiser en faisant encore mieux, en faisant comme ceci, comme cela. » Donc, ils ont parlé d'algorithmique, bref. Et à la fin, la meilleure version qu'ils ont fait tous ensemble, au lieu de mettre 32 jours, elle met 6,7 millisecondes.
Oh, oui.
Donc, alors, ça fait un facteur 408 millions.
Ah, voilà. Oui, c'est ça, 408 millions.
Donc, c'est la dernière version, elle est 408 millions de fois plus rapide que la première version de Matt Parker. Alors, c'est objectivement le cas idéal, quoi, si tu veux.
Ouais, mais du coup, t'es revenu voir Pierre Bessac après, et tu lui as dit, tu pourrais bosser un petit peu plus quand même, rebosse un petit peu 30 minutes, puis 30 minutes.
Non, je lui ai pas dit à Pierre, mais j'espère qu'il va écouter cet épisode.
Tu peux continuer.
Mais je sais pas si tout est faisable. Enfin, je pense que vraiment l'exemple de Matt Parker, il est absolument idéal. Mais 408 millions, ça me paraît, c'est un peu l'Everest de l'optimisation, quoi. Mais au moins, ça donne une idée de ce qu'on peut faire.
De ce qu'il y a à fouiller, à chercher, et à dégraisser, à optimiser,
Donc se dire, je vais pas faire 20% plus rapide, mais il y a sûrement des endroits dans les logiciels qu'on utilise où on peut faire x 1000, x 2000. Et ça existe dans le monde réel. Moi, j'ai lu un article d'un type qui avait accéléré GTA Online, qu'il avait rendu 3 fois plus rapide le chargement. Parce que parfois, ça mettait 10 minutes. Tu vois, tu lançais le jeu, il était connecté à Internet, et ça mettait 10 minutes pour se lancer. Moi, tu mets un jeu vidéo qui met 10 minutes à se lancer, le PC, il brûle, tu vois. Avant, c'est moi qui ai foutu le feu.
Oui, t'es parti avant qu'il commence, quoi.
Mais... Exactement.
Non, mais c'est là où on sent que les informaticiens, ils sont sur des vrais sujets, des vraies optimisations. Lancer GTA en moins de 10 minutes, c'est quand même super important, tu vois. Parce que le café, il se fait pas en 10 minutes, il se fait beaucoup plus rapidement. Donc c'est important, c'est des vrais sujets, ça.
Exactement. Et d'autant que le mec, il travaillait pas chez l'éditeur qui s'appelle Rockstar. Ah oui. Il a fait de l'extérieur, en n'ayant rien, et en ayant juste le jeu. Et en désassemblant le machin, décompilant le code. Enfin bon, c'est un furieux. Ouais. Donc il avait beaucoup de mérite. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, à délaisser l'optimisation, pour la raison que je t'expliquais tout à l'heure, on a fait énormément de gâchis et on peut revenir en arrière, on peut optimiser du code de façon, je dirais, spectaculaire et faire des économies de ressources.
À condition de prendre ce temps de la maintenance, à condition de peut-être de revaloriser, puisque c'est aussi un des constats qu'on faisait à Octo. C'est vrai que ce temps de prendre soin des logiciels, de prendre soin des collectifs qui travaillent sur les logiciels, ben, il est souvent peu valorisé, quoi, peu investi, ne serait-ce qu'au prix, au TJM, tu vois, au TJM vendu chez les clients, on vendra beaucoup plus cher un TJM pour créer un truc, un nouveau truc innovant, etc., et qui va être sûrement très gourmand en termes de ressources et tout ça. Et puis par contre, le temps derrière pour la maintenance, pour l'optimisation, pour faire en sorte que tout marche, pour peut-être décommissionner les trucs qui sont jamais utilisés, alors là, ce temps-là, ben, il est... peu valorisé, peu investi, et puis et souvent délocalisé, ou en tout cas on met pas d'argent, de temps.
Absolument. Alors en fait, tu te rends compte que l'optimisation, on en fait parfois, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on en fait quand on est obligé.
Ok.
Que t'avais des petits ordinateurs pas puissants, et ben tu devais apprendre à en tirer le meilleur parti possible, et donc tu optimisais ton code pour que ça fonctionne.
Et oui, l'époque où on faisait du développement sous contrainte, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Mais ou dans l'aérospatial, par exemple, oui. Tu mets un ordinateur à une date T, et puis tu sais que ce truc-là, soit parce qu'il est déjà en orbite, ou parce que ton satellite, il est spécifié, enfin, tu peux pas le changer le matériel comme ça, tu peux pas mettre un autre ordinateur à la place, machin, et ben tu sais que ça doit rentrer avec telle puissance, et il faut que ça marche dans tel délai, et donc tu te débrouilles pour que ça arrive, et là on fait de l'optimisation. Ou les consoles de jeux, tu vois, avant l'époque du downloadable content,
okay.
Sur les consoles de jeux qui n'étaient pas connectées à Internet, une fois que tu avais vendu la console de jeu, tu te doutes bien que le type il n'avait pas rajouté de la mémoire dedans, ou un disque dur, ou quoi.
Ouais.
Et puis que quand tu vendais un CD-ROM ou une cartouche, le logiciel il évoluerait jamais, tu vois, et donc il fallait qu'il soit bon dès le début. Et donc là, on optimisait parfaitement pour que ça tourne bien. Et puis, bah, quand on peut éviter d'optimiser, bah, on le fait pas, et c'est dommage.
Ok, donc il y a des moments où... Alors, on a des exemples d'optimisation radicale. Là, maintenant, c'est souvent délaissé. Et en même temps, il y a des endroits, notamment tout ce qui serait informatique embarquée, satellite, en tout cas des espaces qui sont sous contrainte par construction, comme les consoles, une fois vendues, on n'y touche pas. On fait pas vivre, en fait, la loi de Moore en action, finalement. Les consoles, elles attendent pendant 2 ans. Et puis, si tu veux des nouveaux jeux sur des vieilles consoles, il faudra bien les optimiser sous contrainte avec ce que tu avais à l'époque. Donc, ça existe à certains endroits. Et toi, quand tu me bassines, hein, faut le dire que tel qu'il est, hein, mais tu me bassines avec cette loi de Moore et cette loi de Wirth depuis 6 mois, peut-être plusieurs mois. Mais donc, t'es venu avec cette idée-là, un peu naïve, un peu comme ça, que t'as appelé la loi de Hiroom, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est Hiroom, c'est Moore, mais à l'envers.
Ah bah oui, tout simplement. Ok.
Si vous l'avez pas. Room.
Ok. Ouais.
Voilà. Et alors, du coup, pour que ça soit plus facile à retenir, j'ai essayé de faire un acronyme, mais j'ai raté. Enfin, ça fait un acronyme, mais il est incompréhensible.
Ah bah faut que tu l'essayes quand même. Ouais. C'est quoi
Hiroom? Non, mais je vais te le dire, mais en fait, ça va pas t'aider à le mémoriser. donc Hiroom, c'est effort radicalement organisé d'optimisation en masse.
Et voilà, il y est arrivé.
Voilà.
Oh là là.
Et
là.
Voilà.
Bravo.
Oui, bon, c'est la loi de Moore à l'envers. Je dis ce qu'il faudrait, parce que tu sais, la loi de Moore, avant de te dire ce que ça fait, faut quand même se rappeler d'un truc qui est vachement important. Moore, quand il a dit on double la puissance, on double le nombre de transistors dans les semi-conducteurs tous les 2 ans.
Ouais.
C'était, regardez, on a réussi à le faire en gros 2 fois de suite là. Et après, c'était un genre de prophétie autoréalisatrice.
Ouais.
Il programmait le truc. Il disait, regardez, il faut qu'on se débrouille pour qu'en tant qu'industrie, tous les deux ans, on fabrique des nouvelles technologies avec des nouvelles usines et donc on ait assez de capitaux
pour faire
une nouvelle génération tous les deux ans.
Et puis, c'est une sorte de grand programme. En fait, c'est une énorme planification. Je crois que c'était Gauthier Roussy, le précédent podcast de Numérique Essentiel. Il nous disait, c'est la plus grande programmation politique, planification pardon, voilà. Économique jamais vue depuis tous les temps. Parce que ça se fait pas comme par magie, effectivement. Ça nécessite des investissements.
Ah bah, notamment une usine, etc. C'est des milliards de dollars, littéralement, sans exagération. Mais ça rapporte des centaines de milliards de dollars. C'est faisable. Hein. Tu trouves des gens pour t'avancer là. Argent espérant.
Ouais, et puis c'est devenu une sorte de Far West. Tu parles de milliardaires avec des appétits aiguisés de richesse, mais tout voilà. Ça aussi soutenu par des États, soutenu par des planifications écologiques, j'allais dire.
Économiques.
Peut-être pas économiques.
Peut-être pas, non, justement, c'est le problème.
Et aussi par des besoins et des usages militaires derrière aussi.
Voilà. Okay, donc. Et donc, cette loi de Hiroum, qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'impire, donc c'est la loi de Moore à l'envers. Elle dit, elle décide en quelque sorte, comme la loi de Moore, de dire, on va optimiser le logiciel existant d'un facteur 2, c'est-à-dire on va doubler la vitesse du logiciel tous les deux ans.
Mais en fait, ça y est, je viens de réaliser, mais t'aurais dû l'appeler la loi Nito. Pourquoi tu l'as pas appelé la loi Nito?
Non, je suis comme Wirth, moi, je suis beaucoup... je peux pas, ça, je sais pas faire. Non, Moore, il sait faire, parce qu'il a de l'ego. Enfin bon, il a plus rien maintenant, mais c'était okay. La Silicon Valley, moi, tu vois, je peux pas, moi.
Ok, bon, la loi Hiroum, d'accord, on garde. Et donc, cette loi de Hiroum, là, que tu nous proposes, ça offrirait quoi? Ça donnerait quoi comme perspective?
Alors, en fait, il y a un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que l'empreinte écologique du numérique, en particulier en France, c'est que c'est la fabrication du matériel qui porte l'essentiel de l'empreinte. Ce qui est coûteux pour la planète, polluant, émetteur de gaz à effet de serre, consommateur d'énergie, etc., c'est la fabrication du matériel. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas en Afrique, tu vas en Amérique latine, tu vas prendre des appareils qui tournent au diesel, qui vont tourner des mètres cubes et des mètres cubes de roche pour en retirer des grammes, littéralement, hein, des grammes de métal. Malheureusement, je ne plaisante pas. Hein, aujourd'hui, une mine de cuivre, c'est 0,3% de rendement en moyenne.
Okay.
Et donc, tout ça c'est très émetteur de gaz à effet de serre, ça détruit les écosystèmes, ça emmerde les populations qui habitent là, ça pollue leur eau, leur air, enfin bon, c'est une catastrophe.
Okay. Donc,
après, t'emmènes tout ça en bateau en Chine, tu l'as, ou à Taïwan, tu fabriques le matériel, tu mets ça dans des avions, ça arrive en France, et en gros, 80% de l'empreinte écologique, elle a été faite avant que tu déballes ta machine.
Ok, et donc la loi d'Hiroum?
Eh ben la loi d'Hiroum, ça fait que tu n'as plus besoin de changer ton matériel. Parce que, puisque le silicium ne s'use pas et que ton logiciel est de plus en plus léger, tu peux garder ton matériel indéfiniment.
À iso-fonctionnalité.
Les fonctionnalités, mais même plus, puisque en optimisant, tu libères de la puissance de calcul que tu peux dédier à d'autres fonctionnalités. Donc, tu continues d'innover. Tu vois, en fait, en quelque sorte, il y a un effet rebond qui est embrassé. Si tu veux, dans cette perspective, c'est oui, il y a de l'effet rebond, mais j'ai déjà dépensé pour avoir ma machine. Et donc, plus j'optimise le logiciel qui est déjà dessus, plus j'ai de la place pour inventer des nouveaux logiciels qu'il faudra optimiser à leur tour aussi. Mais donc, on continue d'inventer des nouveaux usages tout en gardant le matériel. Et donc, on n'a plus que juste à l'alimenter en électricité pour qu'il fonctionne. Et comme on est en France et qu'on a la chance d'avoir une électricité globalement décarbonée, enfin beaucoup plus qu'ailleurs, grâce au nucléaire, qui a son lot d'inconvénients énormes, ne l'oublions pas, mais du moins pas lié au gaz à effet de serre, ou très peu, et puis les barrages hydroélectriques qui eux aussi sont peu carbonés, et ben en fait, tu peux utiliser du numérique, si les serveurs sont en France, le réseau en France et les ordinateurs en France. Tout ça, c'est alimenté avec de l'électricité globalement décarbonée. Et donc, en fait, tu as peu d'impact quand tu utilises ce matériel.
En fait, ce que tu proposes, au final, c'est déjà la stratégie que j'ai, mais au niveau de mes livres, tu vois, moi, je vis en toute petite maison, je vais pas dire le mot anglais, mais je vis en micro-maison, donc ma bibliothèque est fixée, et donc quand je vais acheter un nouveau livre, bah, faut que j'en enlève un. En tout cas, faut que je fasse de la place dans tout ça, et là, ce que tu nous dis, c'est que la loi de Moore, finalement, pour se payer des nouvelles fonctionnalités, ok, les gars, pas de problème, on peut le faire, mais avant ça, il faut optimiser.
Faut faire de la place dans la bibliothèque.
Faut faire de la place dans la bibliothèque, faire de la place dans le processeur pour pouvoir mettre les nouvelles fonctionnalités. Et on n'en met pas des nouvelles si on n'a pas optimisé en avance de phase. Ok.
Exactement. Ouais. Et ça veut dire que, ben, à titre individuel, on fait des économies. Mais si on est un directeur des systèmes d'information, bah aussi on fait des économies sur le matériel. Une bonne partie de l'argent, tu sais, pour un DSI qui est dédié à faire tourner l'existant, et ben, et à renouveler le parc sans cesse de matériel, et ben là on fait des grosses économies, quoi.
Ok. Ouais, et on met en acte, clin d'œil à Benjamin Ninassi, on met en acte l'idée de faire tourner les services de demain sur le matériel d'hier.
Voilà, exactement. Okay. Exactement. C'est exactement ça.
Et tu me disais aussi que la loi de Moore, indépendamment de ton souhait, là, de ce que tu lances avec cette idée de la loi de e-room, mais la loi de Moore, tu disais qu'on observe déjà qu'elle est en train de vaciller, de ne plus se réaliser.
Oui, oui, absolument, absolument. Ça, c'est incroyable. Là, je suis en train d'écrire un article pour documenter tout ça. Elle continue, la loi de Moore. On rajoute toujours plus de transistors pour faire des processeurs, mais les processeurs, ils sont pas plus puissants. Et la puissance, elle plafonne. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé au bout. C'est-à-dire rajouter plus de transistors, plus de complexité, plus d'optimisation du matériel pour effectuer des choses, ben, ça ne fait pas tourner plus
on
vite
touche
les logiciels.
Doucement, mais c'est quand même dingue ce monsieur. Il a créé la loi de Moore et quand il meurt, elle s'arrête avec lui. C'est quand même hallucinant, non?
En fait, elle s'est arrêtée il y a quelques années. Enfin, tu vois, elle est en asymptote, c'est-à-dire qu'elle plafonne, quoi. Elle ralentit de plus en plus. C'est dramatique parce qu'en fait, la loi de Moore, elle ne fonctionnait. Donc on mettait en gros, donc on doublait le nombre de transistors, mais pour que ça soit faisable sans que le prix s'envole, juste pour donner une idée, entre le Intel 4004 de 71, il y avait 2300 transistors, 2300 en 1971. Aujourd'hui, dans un Intel Core i7, c'est de l'ordre de 50 milliards.
Ah oui,
2300
ah oui.
versus 50 okay. milliards. Donc en fait, tu en mets vraiment beaucoup, beaucoup plus.
Ouais.
Mais ça n'est possible que parce que le prix du transistor a vachement baissé, le prix unitaire du transistor, parce que sinon, ça vaudrait 50 millions un processeur, tu vois, donc non.
Le prix, la taille et tout ça.
Bah oui, exactement. Ouais, et donc, les transistors, il fallait absolument qu'à chaque génération, ils baissent, mais de mémoire, c'est en 2008 que le prix des transistors s'est arrêté de baisser.
D'accord, ok. Ah oui, donc ça date un petit peu
et donc,
sur l'avancement. Ah, okay.
Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois les cartes Nvidia, elles coûtent tu sais, les cartes de GPU qu'on utilise pour faire de l'IA.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, ça vaut des dizaines de milliers de dollars pièce.
D'accord.
Et même, il y a des gens qui spéculent, et j'en ai vu récemment à 100 000 dollars parce qu'elles sont tellement introuvables que les gens jouent la spéculation.
Donc, à faire, ouais, on joue plus dans le même cours, quoi. 100 000 dollars, c'est le prix de ma maison, quoi. Ça va. Ok. Ok. Et donc, tu nous dis que tout ça, tu vas le documenter un petit peu plus dans un article, c'est ça?
Oui,
prochainement, c'est ça?
Exactement.
Classe, hâte de le lire. Eh ben, peut-être en guise de conclusion, parce que là, on arrive au bout de cet épisode qui est une intro, en fait, à ce que tu nous prépares pour la suite. Bah, t'as envie de nous amener où avec tout ça? Et aussi à travers le podcast, ou en tout cas, un sous-podcast des numériques essentiels 2030.
Oui, voilà. En fait, je veux commencer une série de podcasts sur le sujet de l'optimisation, de faire du meilleur de logiciel, sur la loi de Moore, la loi d'e-room, et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour faire du logiciel qui nous oblige pas à changer de matériel, et comment du coup on arrive à avoir ce combo assez incroyable qui est continuer à innover.
Ouais.
En faisant de la place, comme tu le disais, dans la bibliothèque, enfin dans ton processeur, en optimisant les logiciels existants, ce qui nous permet de ne pas renouveler le matériel, donc d'être écolo et de continuer à innover sous contrainte.
Et voilà, donc, c'est ça que je vais explorer. Tu vas avoir envie d'inviter Pierre Bessac, Aurélien, Matt Parker, ou non, peut-être pas Matt
Parker. Il parle anglais, Matt Parker. Ah, s'il parle français, je veux bien l'inviter. Mais
Matt, si tu nous écoutes, je peux parler français. Voilà,
c'est ça. Voilà, c'est ça, tu peux commencer avec ta méthode à 6000.
Et peut-être un petit truc, si tu écoutes ce podcast-là, et que tu as entendu parler d'une innovation, d'une optimisation gigantesque qui ne ferait pas lire Aurélien, Pierre et peut-être Matt, n'hésite pas à nous faire un signe. Tristan, il sera content d'échanger avec toi.
Oui, cher auditeur, absolument, signalez-vous. Je suis pas difficile à trouver. Mon adresse mail, c'est mon prénom @monnomdefamille.com. Et je m'appelle Tristan Nitto, N-I-T-O-T. Hein, donc c'est pas très difficile. Même une IA pourrait décrypter cette énigme pour m'écrire. Donc écrivez-moi. Moi, j'ai déjà quelques noms de personnes super intéressantes.
Excellent.
Qui ont travaillé, fait des choses, mais fabuleuses, qui continue à programmer des Apple II, etc., à faire des choses modernes. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour intervenir, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux invités pour essayer d'inventer un numérique plus intelligent.
Radicalement optimisé.
Voilà, radicalement optimisé, en masse.
En masse. Ok, merci beaucoup pour cet épisode d'introduction et longue vie à ce sous-podcast. Hâte d'écouter la suite. Salut.
Merci Alexis, salut.